Hey, salut tout le monde, bienvenue, tu viens de coucher, épisode 141 du podcast de Brian Ravenet. Faut que je me présente, j'avais dit, je suis Brian Ravenet. Vous êtes en train d'écouter le seul podcast en live, sans montage, sans publicité, sans Patreon et sans auditeur. Et c'est pas vrai, comme d'habitude, je fais cette blague, mais là, je suis très content puisque, regardez, ce soir, on a Thompson qui nous fait le plaisir d'être là en général assez régulièrement en ce moment, ça fait plaisir. Rosago nous fait un petit comeback, ça aussi, ça fait plaisir. Axel est déjà là à l'heure, ça, c'est beau aussi. Ça, c'est beau d'être là dans les temps, ça, c'est puissant. Le seul podcast, il n'y en a pas d'autres. Hein. Vous pouvez chercher dans vos applis de podcast préférés, dans les catégories. Il n'y a pas d'autres podcasts d'un stand-upper, prof de fac, gamer. Il n'y en a pas. Cherchez. Si vous en trouvez un, envoyez-le-moi. La semaine dernière, tu avais dit que dans ton intro, tu devais te présenter. Effectivement, je crois que je l'ai dit. Je suis Brian Ravenet. Vous écoutez, tu viens de coucher. Et surtout, vous mettez 5 étoiles, vous mettez les commentaires, les likes qui vont bien. Au sommaire de cette semaine, vous avez vu, je suis un petit peu excité. Je suis un petit peu excité pour plein de raisons. La première, c'est que la semaine prochaine, je joue une demi-heure vers Angoulême, à Soyaux, pour le festival Soyaux Fou d'Humour. C'est le dernier festival de stand-up que je fais cette année. C'est le dernier, juste parce que c'est le dernier que j'ai booké, hein. Pas parce que c'est le dernier, ça parce que c'est le dernier comment festival que j'ai envie de faire. C'est le seul qui m'ont accepté. Hein. Mais c'est cool. Ouah, le chapeau du diplômé dans le décor. C'est un hasard parce que en fait cette pièce je la partage avec ma compagne et en fait c'est pas le mien, c'est le sien. Ouais, on est des diplômés dans la famille. Ça me taille. Nice, ouais, ça me taille. Oui, bah, il y a eu qu'un petit peu de retard hein, la dernière fois, Axel, j'ai remarqué. C'est mon côté prof, je peux pas, t'sais, je peux pas zapper les retards, je les note dans un coin de ma tête, même si je dis rien. T'sais, quand un étudiant, tu sais, il rentre en retard dans la salle comme ça là, t'sais, les regards avec le prof, ils se croisent. T'sais, des fois le prof il dit rien sur le moment. T'sais, le prof il fait OK. Mais même pas, il dit OK, il n'y a rien. L'étudiant, il va s'asseoir, mais les regards se sont croisés. Mais dans le fond de la tête du prof, il y a un petit. Celui-ci, si je peux lui enlever un petit point à la prochaine interro, peut-être que je me gênerai pas. OK. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous le savez maintenant. Vous le savez. Je suis un peu excité pour plein de raisons. Donc, je joue la semaine prochaine et je suis un peu stressé avec ça. Je dois avouer que j'ai pas du tout eu le temps de répéter la demi-heure de spectacle que je vais jouer la semaine prochaine. Et je suis un peu rouillé, même si je vous avais dit, j'ai répété un peu 10 minutes la dernière fois, 10 minutes la fois d'avant. Mais en gros, il me manque un gros quart d'heure. En fait, il y a un quart d'heure, je saurais le faire. Et il y a un quart d'heure, je suis un peu perdu. Pas le choix alors, comme en cours, je vais utiliser l'excuse du diabète. Ah! Il y en a qui ont des. Ça, c'est chiant. Ça c'est c'est chiant. Non, mais t'as raison. Si c'est, en plus, si c'est vrai, ben, quand t'as un étudiant qui a une bonne excuse, ah, ça fout les nerfs. Une bonne excuse dans le sens, il est une vraie excuse, tu vois. T'as envie de lui tomber dessus, t'as envie de le niquer. Et là, il a une vraie excuse. Tu fais, ah, fait chier, je pensais que je l'avais. Je pensais que j'allais me le faire. Donc voilà, faut que je répète. Je vais la répéter cette semaine, mais surtout, j'ai pas eu le temps parce que j'ai bossé sur mon HDR. Je vous ai dit que le jury était calé. J'ai juste un gros souci sur trouver la date avec les différents membres du jury. Ça devrait être en mars, mais j'ai envoyé un espèce de doodle. Bon, je vous la fais rapide, mais j'ai envoyé un système pour qu'ils choisissent les dates. Il n'y a que deux qui m'ont répondu, et déjà, les deux qui m'ont répondu, les dates sont incompatibles. Donc déjà ça c'est un stress, mais bon on va finir par y arriver. Hein. Mais voilà je vais galérer sur ça. Donc j'ai eu du mal à répéter mes blagues et surtout donc c'était aussi l'HCERS au labo. Mon côté prof, mon côté chercheur dans ce podcast m'oblige à vous expliquer un peu ce que c'est que l'HCERS très rapidement. Il faut savoir que tous les 4-5 ans environ, je crois que tous les 4 ans maintenant, avant c'est tous les 5 ans, il faut que je vérifie. Tous les 5 ans, ça doit être. Les labos sont évalués. Donc, on ne fait pas de la recherche comme ça, genre on fait ce qu'on veut, et puis si on ne trouve pas, ce n'est pas grave. Tous les 5 ans, les labos sont évalués. C'est pareil pour les universités d'ailleurs, c'est aussi l'HCERS. Et en fait, il y a une commission d'experts qui sont sélectionnés, qui font le tour du labo. Ça dure super longtemps, il y a plein de dossiers. Tout le labo s'y met, tous les chercheurs du labo ils s'y mettent. Il y a des dossiers à rédiger, il y a des documents à fournir pour montrer ce qu'on a fait. Des tableaux Excel pour montrer tous les articles qu'on a publiés, tout l'argent qu'on a réussi à avoir. C'est un gros boulot monstrueux, ça nous bouffe du temps, ça nous fait souvent chier. Et après, il y a les jours où les experts viennent, ils viennent et on leur fait des présentations, on leur montre les labos, on leur montre les locaux, etc., etc. C'est chronophage pour tout le monde. Et bon, nous, ça s'est bien passé. Il n'y a pas de raison après que ça se passe mal. En général, ça se passe quand même plutôt bien. Et en plus, c'est l'occasion d'avoir de la discussion scientifique quand même. Puisqu'il y a des gens qui viennent. Donc nous, ça nous oblige aussi un petit peu à reparler science avec eux, pas que science, organisation aussi, mais science. Donc ça, c'est plutôt côté cool. Et en plus, on peut rencontrer des collègues. On n'a pas toujours l'occasion de discuter avec les collègues, enfin, avec certains collègues, si, quand même, mais pas avec tous. Donc là, c'est l'occasion. Rosago, ma mère travaillait chez les examinateurs de labo, les experts. Écoute, je voulais rien dire de mal sur ta mère, mais maintenant qu'on y est. Non, mais les experts, en fait... Les experts, ce sont des chercheurs comme nous. Ce sont des chercheurs... Ouais, attention, oui, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet quand même. Je ne vais pas exagérer. Il y a des lignes, on va essayer de ne pas les franchir quand même. Même si je peux me permettre des blagues douteuses et qu'on est en live et que c'est pas coupé, c'est pas édité, je vais essayer de faire gaffe. Les experts, normalement, c'est des chercheurs comme nous. Enfin, des chercheurs de haut niveau quand même, en général. Donc souvent des maîtres de conférences plus ou des professeurs. Hein, souvent des professeurs. Directeur CNRS et ça peut être des gens comme moi en fait, et moi-même je pourrais être sollicité pour, enfin, quand j'aurai peut-être un peu plus d'expérience quand même, je suis encore un peu jeune chercheur, pour aller évaluer d'autres labos. Donc c'est vrai que tu peux te dire oui, on s'évalue entre nous, mais c'est un petit peu comme ça que fonctionne la recherche. Déjà, quand on fait des articles scientifiques, on s'évalue entre nous, puisque quand on soumet nos articles, c'est d'autres chercheurs comme nous qui vont regarder l'article et voir s'il est de qualité. Mais alors, on pourrait se dire, on s'évalue entre nous, il y a peut-être un truc un peu, je ne sais pas comment dire, une forme, pas de népotisme, mais d'entre-soi. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est en général assez dur. Parce qu'en fait, entre chercheurs, c'est globalement quand même, on pourrait croire que c'est... On est assez exigeant. On est assez exigeant et on est assez critique quand même du travail des autres. Alors, on n'est pas là pour casser les gens, mais on a envie que ça tire vers le haut quand même. On a envie que la recherche, elle progresse. Donc, on peut avoir tendance à être un peu exigeant, à être un peu dur. C'est des gens d'autres labos obligatoirement. Ah bah oui, obligatoirement. Sinon, ce ne serait pas juste. Tu vois, si c'est des gens de ton labo, ce serait carrément même une arnaque. Et genre, si c'est un labo concu, il te flingue. Thompson, t'as, encore une fois, tu vises en plein dans le mille, t'as pas tort, puisque même avec les articles, alors on le voit pas beaucoup ça à l'HCERS, parce que si tu veux, c'est tellement énorme l'HCERS, il y a tellement de gens qui sont impliqués que ça se verrait trop si quelqu'un essayait de descendre un labo. Mais sur des articles, quand tu soumets un article à une conf, en général, t'as seulement 2-3 chercheurs qui vont relire ton article pour l'accepter. Et souvent, dans les 2-3, tu as un expert du domaine, vraiment expert pointu. Les autres, c'est des gens du domaine, mais qui ne font pas exactement la même chose que toi, en général. Et parfois, l'expert, et ça arrive de temps en temps, c'est rare, mais ça arrive, comme il travaille sur la même chose, il peut être un peu jaloux. Et il voit le truc et il fait « Ah, les bâtards, c'est du bon boulot !» Et du coup, il essaye de descendre le truc en mode « Ouais, l'article, il n'est pas prêt. » Non, ils n'ont pas fait ça comme ça. Ils n'ont pas fait ça comme il faut. Tu vois, ça peut arriver. Et ça, d'ailleurs, c'est un petit souci qu'on a avec ce système de ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs, le peer reviewing. Donc ça, écoute, ça peut arriver. Mais c'est pas si, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression hein, que c'est pas si répandu que ça et que globalement, le système fonctionne assez bien. Parce qu'on est exigeant à la fin. Le peer-to-peer, ouais. Tu sais, ça me fait penser, tu parles de peer-to-peer, mais c'est le même mot, hein, le pair-à-pair. Ouais. Il y avait même des chercheurs, enfin, c'est pas des vrais chercheurs, c'est plus des start-upers, qui ont commencé à imaginer un système de crypto-monnaie basé sur les évaluations d'articles. Je pense à ça quand tu parles de peer-to-peer, ça me fait penser à ce truc-là. Où en fait, plus tu reviews d'articles, genre plus tu mines une forme de crypto-monnaie, tu vois. Mais le truc tellement tordu. Bon, bref, ça, en fait, tu es récompensé en crypto-monnaie pour les reviews que tu fais. Mais du coup, ça crée des dérives. Ce qui est beau, entre guillemets, dans la recherche, c'est que les gens, quand ils font une éval, quand ils font une review, bah, ils ne sont pas plus payés. Ils ne sont pas plus valorisés. Alors, valorisés, c'est un peu quand même. C'est bien de mettre dans ton CV de chercheur que tu participes aux évaluations. Mais c'est tout, quoi. Ça fait une belle image. Ça peut te servir un petit peu, peut-être pour l'évolution de carrière et encore. Si, un petit peu quand même. Il ne faut pas non plus que j'exagère. C'est à la mode. Ah, bah, les crypto-monnaies, ouais. On va t'en foutre partout de cette merde-là. Moi, je ne suis pas. Vous l'aurez compris, je ne suis pas très, très fan des cryptos. Alors, je vais peut-être faire un truc qui va faire plaisir à Axel. On va voir. Je vais, si j'arrive à le faire. La seule chose que je peux mettre dans mon CV, c'est que je fais partie du BDE. C'est pas mal, hein ? Tu sais, moi, quand j'étais en master, j'étais président de l'association des étudiants en informatique de mon université. Pendant un an, je l'ai fait pendant un an. Je l'ai mis dans mon CV. En vérité, ça faisait bien. Ça fait bien de voir aussi... Alors, faut pas que ce soit la ligne principale. Faut pas commencer par ça. D'accord ? Mais ça fait toujours bien à rajouter... que tu as participé à faire vivre un truc collectif. Parce que ça montre une forme d'investissement. On aime bien ça quand même dans les CV. Tu vois, mais faut pas que ce soit le truc principal. Quoi. En vrai, c'est bien, Rosago et dit, et je suis d'accord. Hein. Moi, je suis trésorier. Ouais, c'est trop bien, trésorier. Trop bien. Et franchement, c'est cool de s'impliquer dans des trucs. Et des fois, ça peut même être des clubs à la con. Hein. Sur les CV, même tu fais, t'es trésorier du club de bridge de ton village. C'est super. Si tu joues au bridge, c'est encore mieux. Je sais pas, ce serait très surprenant du club. Je sais pas quel club tu peux avoir. Bon, je vais essayer d'accrocher ce micro. Alors, est-ce que Axel, ça va te plaire ce que j'ai prévu? Enfin, à voir, ça va te plaire. Ça va plaire à tout le monde, je suis sûr. Mais regardez-moi ça. Eh ben non, ça marche pas, évidemment. Et je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que. Il faut que je me reconnecte. Alors, j'avais prévu de faire un petit let's play. Exactement. Et en fait, ça a tes plans. Pendant que je vous parle, la connexion s'est interrompue. Alors, le problème, c'est qu'en plus, si la console elle s'est éteinte, je suis fucked. Non, mais attendez, je vais aller la rallumer. Parce que comme elle est dans l'autre pièce... Je m'étais dit, je vais faire un petit coup de stream. Alors, attendez, regardez ce qu'on va faire. Hein. Mais je vais... Vous aviez joué au jeu mobile Pokémon, d'ailleurs. J'avais joué à Pokémon Go. C'est le seul jeu mobile auquel j'ai joué, moi. Le jeu... Je vais aller... Ah, celui qui vient de sortir ? Non, je ne l'ai pas... j'avais joué au MOBA. MOBA, ouais, un League of Legends. Je ne sais pas si c'est à celui-ci que tu parles. J'avais essayé le League of Legends version Pokémon. Non, ça, c'était sur Switch. Bah, je crois que je l'ai fait sur mobile, non ? Ah non, sur Switch, t'as raison. Je suis perdu. Hey, je vous laisse 2 secondes. Je vais aller rallumer la console, mais je reviens. Hein. Bon, on va voir si elle redémarre. Alors, c'était quoi le jeu ? Un jeu de cartes Pokémon ? Ah, j'ai pas fait. Si c'est un genre de trading game, on va réessayer. Le truc, c'est que je sais pas s'il faut que je sois connecté. Putain, c'est dommage. J'avais tout prévu. Ça marchait nickel. Allez. Alors, je vous dis qu'il n'y a pas de montage. Il y a peut-être moyen que ce bout-là, je me fasse chier à le... Je me fasse chier à le couper. Hein. Un trading card game. Moi, j'ai essayé seulement les... Moi, j'ai fait un peu de Hearthstone à un moment. Bon, c'est un gros mot, hein, du Hearthstone. Hein, mais est-ce que j'en ai essayé un autre, un trading card game? Je crois pas en avoir essayé des masses. Je crois pas en avoir essayé des masses. Hearthstone, ouais, Hearthstone, j'ai adoré. J'y ai joué pas mal à un moment. Enfin, j'ai adoré. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Moi, je suis pas mauvais à Hearthstone. Ah, bah, il y a une petite team Hearthstone qui est en train de se monter là, dans le chat. Trop bien, Thompson. Alors, moi, j'étais pas très bon. J'avoue, j'étais pas très bon. Je faisais surtout les campagnes solo. Et dès que je jouais en match, quoi, bon, je me faisais un peu rouler dessus. Alors, de temps en temps, je gagnais un truc, mais dès que je retombais dans le ladder, quoi. Dès que j'étais en bas du ladder, j'arrivais à gagner quelques matchs, mais dès que je montais, je me faisais défoncer. Hein. Je vais voir où elle en est, cette console. J'arrive. Team Fortress Tactics, je crois que j'avais. Non, c'est pas Team Fight Tactics, c'est ça, non? C'est dans l'univers de League of Legends d'ailleurs, ce truc-là. Celui-là, je l'avais testé. Je l'avais testé, mais sur mon téléphone, ça marchait pas très bien. Et oui, c'est faut choisir des unités à chaque tour. Je me souviens un peu, j'avais testé. Après, je joue pas énormément sur mobile. C'est vrai, j'avoue, hein. Mais je l'avais testé un peu et j'avais trouvé ça assez sympathique. Mais ap après, je sais pas, je comprenais pas en fait les mécaniques. Je me faisais défoncer trop facilement. Et moi, j'aime pas quand je dois passer trop de temps sur regarder en ligne les méta des jeux. En fait, j'aime bien prendre un jeu, me jeter dedans, réussir à jouer un peu. Et puis c'est cool, c'est un peu casu. J'aime bien quand c'est un peu casu. Et en fait, je sais pas, ces jeux-là, souvent la méta, c'est trop pointu, trop vite, et je me fais défoncer parce que je suis trop casu. Le jeu Pokémon, là, est vraiment bien. Ok. Bah, tu sais quoi, je le testerai. Je suis vraiment désolé, c'est un fail. Ça marchait il y a 2 secondes. Et en fait, elle s'est. Alors, je vais vous dire, hein, la console, elle tournait en tâche de fond. Et en fait, pendant que je vous parlais, bah, elle s'est mise en veille. Genre normal quoi, rien de très surprenant. Mais depuis qu'elle s'est mise en veille, là je l'ai rallumée, je devrais réussir à m'y connecter et ça ne fonctionne pas. Quel échec! Ah oh là là, bah, en même temps, vous avez vu comment j'étais excité? Je suis arrivé trop excité. Je suis arrivé trop excité. Dans cet épisode de podcast. Et du coup, ça a pété. Relance le remote. Ben, je l'ai fait, hein. J'ai tout relancé. Attends, vous pouvez continuer à parler de votre labo, sur quoi vous travaillez en ce moment. Ben, là, tu sais, Rosago, c'est surtout. Enfin, j'ai deux choses. C'est vrai qu'il y a plein de choses sur lesquelles je parle pas. J'allais dire, c'est surtout l'HDR. Donc, je suis en train de rédiger cette fameuse HDR avec la date de prévue de soutenance en mars, si tout se passe bien. Et après, c'est vrai que le gros là de ce que je fais pas grand-chose d'autre en ce moment, mais c'est vrai que je continue quand même d'encadrer des doctorants. Donc j'ai trois doctorants en ce moment. Une doctorante qui travaille sur une application mobile et de montres connectées, gamifiées pour la motivation au sport. Donc ça, c'est plutôt rigolo, sauf qu'elle n'a pas encore trop commencé la partie gamifiée. Donc pour l'instant, elle est plus en train d'étudier les facteurs psychologiques de la motivation pour essayer de les convertir en éléments de gamification pour l'application. Ça existe déjà ce genre d'application, mais nous ce qu'on veut c'est essayer de comprendre avec un point de vue un peu plus rigoureux et scientifique quels sont vraiment les mécanismes qui sont efficaces et ceux qui ne le sont pas. Il y a beaucoup d'applications en fait, elles font des choses sans trop savoir si vraiment scientifiquement ça fonctionne. On sent que ça fonctionne, mais ils ne savent pas pourquoi en fait. Ils savent pas forcément l'expliquer. Donc nous, on cherche un peu à comprendre ces choses-là. J'ai un autre sujet qui est sur l'animation faciale des personnages virtuels. En fait, j'ai bah, d'ailleurs j'ai une doctorante là. Elle était en conférence au Costa Rica. Elle a de la chance. Et elle a gagné le prix du meilleur article de la conférence. Elle travaille sur l'animation faciale automatique du visage à partir de la voix. Donc ça sert, tu vois, quand tu veux animer un personnage, tu veux le faire parler, tu as juste la voix, tu as juste le son, et automatiquement, son système, il génère toutes les animations, alors pas que les animations de lèvres, mais aussi tout ce qui est un petit peu expression émotionnelle, attitude, qu'il y a dans tous les micros, les micro-muscles, le micro-muscle du visage. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième doctorant, lui, ce qu'il fait, il bosse sur on va dire, des jeux narratifs en immersion, en réalité virtuelle. Et son but, c'est en fait de jouer sur les paramètres de l'environnement. Alors, ça peut être les autres personnages qui sont autour de toi, hein. En fait, on essaie de chercher justement quels sont les paramètres sur lesquels on pourrait jouer pour faire augmenter la tension narrative. La tension narrative, c'est ce suspense, c'est cette tension que tu ressens quand tu regardes un film, quand tu lis un bouquin. Et le problème, c'est qu'en réalité virtuelle, ce n'est pas évident à avoir, parce qu'en réalité virtuelle, si tu veux, tu peux regarder ailleurs. Rien que ça. Dans un film et un bouquin, tu ne regardes pas ailleurs. Tu es sur le rail de l'histoire. En RV, tu fais un peu ce que tu veux. Donc, le but de mon doctorant, c'est de trouver des mécanismes pour quand même réussir à te faire ressentir la tension narrative du récit pendant la scène, quoi. Thompson, tu dis, elle va se faire recruter par Activision. Alors, tu sais, il y a quelqu'un dans mon domaine qui, justement, lui, n'a pas continué à l'université après sa thèse et qui travaille sur la génération automatique de gestes. C'est ce que je fais beaucoup, moi, en fait. Hein. C'est un peu ma spécialité. Et lui, il travaille chez Electronic Arts. Il a été recruté dans l'équipe de recherche qui s'appelle SEED, S-E-E-D, SEED. Et en fait, lui, après la thèse, il est allé bosser chez Electronic Arts et il travaille justement pour Electronic Arts, mais dans leur division recherche, sur tout ce qui est génération automatique d'animation. C'est hyper intéressant, mais peut-être tôt pour chercher ça. La VR est vraiment très peu jouable pour l'instant. Ouais, la VR, c'est un peu bancal. Ouais, si on veut. C'est vrai que, en fait, il y a des choses intéressantes. Mais en fait, le potentiel, il est là, hein, technologique. C'est les gens qui n'arrivent pas encore à s'en emparer et à faire énormément de choses bien avec. Parce que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Mais tu vois, moi, j'ai des jeux. Moi, je vais en reparler. J'en ai déjà parlé dans le podcast. Mais Resident Evil 7. La première fois que j'ai fait Resident Evil 7 en VR, je l'ai fait en VR, j'ai acheté le PSVR et Resident Evil 7 quasi en même temps, je crois, si je me souviens bien. Ah non, peut-être pas. Peut-être que j'avais acheté le PSVR avant, je ne sais plus. Mais je l'ai acheté et très peu de temps après, il y avait Resident Evil 7. Mais quelle claque j'ai pris, hein. Le jeu entier fonctionnait trop bien en VR et ça fonctionne, quoi. Vraiment, ça fonctionne. Un jeu entier... triple A, on va dire, pseudo triple A. On est bon. Après, hein, les gens mettent un peu ce qu'ils veulent derrière triple A, mais et ça fonctionne. J'ai pas fait le village du coup. Il y a eu la mise à jour VR, mais comme j'ai pas le PSVR 2, je peux pas y jouer. Donc j'ai que le PSVR 1 sur la PS4. Bref. Et quel kiff. Hein. Franchement, le jeu il fonctionne. Et il y a plein de jeux qui fonctionnent. Il y a plein de même des gros jeux, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. C'est juste que il y a des paramètres qui n'ont pas été complètement résolus. Notamment, tout le monde n'est pas égaux face à la VR. Tout le monde n'est pas égaux face au déplacement en VR, à la sensation, etc., les motion sickness et tout. Donc, c'est vrai, je suis d'accord. Hein. Il y a des paramètres, il y a plein de paramètres qui n'ont pas été complètement résolus avec la VR, qui rend le truc un peu difficile. Je ne sais pas si le potentiel est là ou pensez vraiment que le casque, c'est l'avenir. Ah, est-ce que c'est l'avenir dans le sens on va se débarrasser du jeu traditionnel, on va dire, pour être full VR, je suis pas sûr. La preuve, c'est comme les jeux mobiles. Moi, si tu veux, quand les jeux mobiles sont arrivés, je me suis dit c'est de la merde. La meilleure version d'un jeu vidéo, c'est forcément face à un écran, devant une console, devant un PC, mais devant un beau dispositif, tu vois. Et en fait, les gens, ils préfèrent jouer sur mobile. Tu vois, enfin, ils préfèrent pas les gamers, mais il y a plein de gens qui jouent sur mobile. Ils préfèrent jouer des petits jeux sur mobile. Et donc, si tu veux, il y a plein de gens, ils ne voudront pas passer en VR, ils voudront rester sur l'affichage traditionnel. Ça, c'est clair. Je pense qu'il nous faut des capsules ou des trucs qui détectent les ondes cérébrales pour qu'on n'ait pas à bouger en vrai pour jouer. Ah, je vois ce que tu veux dire, en mode Matrix ou c'est quoi le manga, là, Sword Art Online. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce problème de dissonance entre les mouvements pseudo-réaliste que tu fais en vrai et ceux du jeu. Et l'espace. L'espace que tu es censé explorer. Mais franchement, je vais reparler de Resident Evil 7. Hein. Mais Resident Evil 7, tu joues à la manette classique. Tu n'es pas là en train de viser comme un trou de balle en gesticulant à gauche, à droite. Juste et en RV. Juste et en RV. Et tu joues à la manette. Et franchement, ouais, moi, je trouve, hein, ça marchait trop bien. Moi, j'ai flippé sa mère. je vous en parle et j'ai encore en tête une scène très précise du jeu où tu vas dans la chambre de la grand-mère, tu découvres un escalier sous le lit et en fait dans l'escalier au bout du couloir il y a un strum, il y a un monstre et là je me souviens flipper, me retourner, courir et tu sais avec le son 3D l'entendre derrière moi me poursuivre, mais c'était fou. Hein. C'était complètement fou. Tu penses quoi du casque MetaQuest ? Ah, ils sont bien. Le MetaQuest 3, là, c'est le 3, je crois, le dernier. Franchement, ils sont bien. C'est moins cher qu'un smartphone, qu'un PC gaming. Et les jeux sont pas mal. En fait, si tu joues aux jeux classiques, c'est cool. Tu as tout ce qui est Beat Saber. Il y en a d'autres. Hein. C'est le premier qui me vient en tête souvent. Mais même Arizona Sunshine, c'est sympathique. Après, le problème de la VR, et là, peut-être Rosago, c'est ça, on va peut-être être d'accord, mais c'est que les gens s'en sont pas assez emparés et il n'y a pas assez de jeux. Tu vois, moi, je te parle de Resident Evil 7, je te parle de Beat Saber, je te parle d'Arizona Sunshine, et en fait, on parle toujours des mêmes jeux. Tu vois, très vite, tu parles avec un mec qui joue à des jeux en VR, et tout de suite, en fait, c'est les 5 mêmes jeux qui reviennent tout le temps. Et c'est ça qui est un peu chiant. Et pour des raisons, je suis d'accord hein, avec toi, Rosago, c'est que les interactions, il y a une raison à ça. On n'a pas tout résolu. Et c'est là où je te dis, je suis un peu d'accord avec toi. Les interactions, la gestuelle, est-ce que je dois gesticuler comme un con ? La gestion de l'espace, les dissonances entre la réalité et le VR. Et puis les sensations, tu vois, comme je disais, on n'est pas tous égaux. Il y en a, ça fatigue de porter le casque. C'est pas très léger. Ça fait mal aux yeux. Ça fait du motion sickness. En fait, c'est galère. On n'a pas tout réglé. Mais je pense que vraiment, le potentiel, il est là. Moi, j'y crois. Bah, j'y crois. Bah, j'y crois. Je m'en fous. Hey, je ne suis pas en train d'essayer de... Tu sais, je m'en fous. Hein. Si demain, on me dit qu'il n'y a pas la VR, je te dirais oui, bah, tant pis. Hein, je suis pas... Je joue très bien à mes jeux sur écran. Mais moi, franchement, la sensation que j'ai vécue avec le Resident Evil, je me dis, si je peux la retrouver sur d'autres jeux, en fait, banco, quoi. Banco, hein. Je pense que l'AR a beaucoup plus d'avenir que la VR. C'est marrant que tu dises ça. Parce que là, j'ai un chercheur dans l'équipe, dans mon labo. Il est à donf sur l'AR et il dit que la VR, ça n'a aucun avenir. Et c'est que l'AR qui a du potentiel. Pour toutes les raisons un petit peu qu'on est en train de se dire. Le côté conflit entre l'espace virtuel et l'espace réel dans lequel je suis vraiment. Le motion sickness, tout ça. L'AR, il n'y a pas ce problème-là. L'AR, t'es... Comme tu es dans le même espace, entre guillemets, tu es moins perturbé par les conflits et en plus, ça crée moins de motion sickness, du coup, etc. etc. Mais forcément, l'immersion, tu vois, elle est forcément un peu plus... Les expériences que tu peux proposer en AR, c'est pas les mêmes. Tu peux pas vraiment proposer la même expérience, quoi. Moi, VR, j'ai testé, au bout de 45 minutes, j'ai trop mal au crâne. Je comprends, Thompson. Ah ouais, ça, c'est le problème, on n'est pas tous égaux. Moi, je dirais quand même qu'il faut un petit temps d'adaptation. Moi, j'ai réussi... la première fois que j'ai testé la VR, j'y jouais une demi-heure, une heure max, tu vois. Et en fait, très vite, et un petit peu comme les jeux vidéo classiques sur écran, hein, en réalité, en fait, tu t'habitues. Quand tu as le casque et que tu joues un peu régulièrement, au bout d'un moment, tu es un peu habitué à comprendre la limite physique du truc et tu es moins... Normalement, tu es un peu moins malade. Mais il y a des gens pour qui ça passe pas, hein. Mais je crois que normalement, un petit peu, tu t'habitues. Axel, le gros costaud, la VR, ça ne me fait rien, MDR. Invincible. L'homme invincible. C'est cool. Bah écoutez, c'est le Giga Chad. Grave. Écoutez, cet Astrobot, c'est un fail, puisqu'évidemment, donc, c'était Astrobot que je voulais vous... c'était Astrobot que je voulais vous présenter. C'est un fail, C'est un énorme, énorme fail. Gros, non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, alors, énorme fail de ma part. Je vous ferai un truc la semaine pro. Tant pis, on rattrapera ça. Là, je vais pas retourner 4 fois allumer la console. Je comprends pas. Elle est allumée, ça devrait se connecter. PlayStation, hein? Ok? On est là. Astrobot, alors qu'il y a Monster Hunter Wilds qui va sortir, nous dit Rosago. Tu sais, j'en ai parlé avec Thompson la semaine dernière, je crois. C'était la semaine dernière. J'ai testé la démo à la Paris Games Week. Je suis allé à la Paris Games Week avec mon petit frère et j'ai testé la démo de Monster Hunter Wilds. Et moi, j'avais un peu décroché de la série, pas parce que j'aime pas, mais parce que j'y ai surtout joué à l'époque sur PSP. Et j'ai vraiment kiffé la démo. J'ai vu la VOD sur YouTube. Yes! Super, ça c'est bien joué. Ça c'est les gens qu'on aime. J'espère que tu as mis un pouce, un commentaire. Bon, c'est pas grave. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé la démo. Et avec mon petit frère, on se disait qu'il y a moyen, on le chope, on se fasse des. Enfin, je sais pas, ça nous a un peu chauffé. Franchement, ça nous a un peu chauffé. Alors que le jeu, on avait un peu pas rien à foutre, mais on était là, Paris Games Week, on se dit, viens, on va le tester. Le jeu, il est là. Et ben, ouais. Il m'a carrément emballé. La console est déconnectée du réseau. Normalement, non. Elle est là, allumée. Elle est connectée à Internet. J'ai testé quand je vous ai abandonné, mais laisse tomber. Je vais laisser tomber pour ce soir. Je suis désolé. Je l'ai peut-être fait trop au dernier moment, le truc. Regarde, ça fait 3 heures que ça tourne, le bordel. Impossible de trouver la console. Il y avait un petit message d'erreur. Allez, on relance, vitef. Mais là, ça m'étonnerait que ça. Il faudrait qu'elle redémarre en plus. Parce que là, maintenant, elle est allumée depuis. C'est mort. Bon. Il est vraiment beau. J'ai été bluffé par la météo. Ouais. Non, il est canon. Franchement, il est canon. Moi, j'ai juste fait la démo. Alors, la météo, elle n'a pas bougé. J'ai pas trop vu les vidéos qui montraient peut-être des météos qui changent et tout. Des météos dynamiques. Mais la démo, franchement, j'ai trouvé ça stylé, quoi. Après, c'est le RE. On parlait de Resident Evil 7 juste avant. On est encore sur le RE Engine. Ce putain d'engine, qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, les jeux, ils claquent avec ce moteur. C'est vraiment stylé. Ah ouais, faut regarder. Tu sais, j'aime pas me spoiler. Est-ce que je vous dis 2 mots sur Astrobot, quand même, ou pas? Ah, je suis un peu obligé, normalement, de vous lâcher deux pépites. Non, le jeu est cool. Astrobot... Je vais vous avouer, le jeu, il avait des critiques dithyrambiques sur Internet. Et je comprends pourquoi. Parce que déjà, c'est un jeu, si tu vois les gens qui font des reviews, ils ont mon âge. Et en fait, moi, je suis génération PlayStation. J'étais petit quand la première PlayStation, elle est arrivée. J'avais 9 ans à peu près, un peu moins, 8-9 ans. Donc tu vois, j'étais à l'âge parfait où ça te fait péter un plomb. Première PlayStation et forcément après la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la PSP, la PS Vita. Moi, je suis PlayStation. Y a pas de... J'ai rien contre les autres. Juste, j'ai vraiment grandi avec ces consoles-là. Et en fait, le jeu, déjà, il est très propre, hyper propre. Il exploite vachement bien toutes les petites spécificités de gameplay de la manette, de la PlayStation. Il est malin dans plein d'éléments de game design. Il est malin, il est très propre. Et il est rempli de petits refs, de micro-refs à tout l'univers PlayStation. Et ça te flatte. Tu vois, ça, c'est trop bien, quoi. Quand t'es un mec comme moi, ou une meuf, hein, mais qui a grandi un peu à cette époque-là avec ces jeux vidéo-là, tu chopes toutes les micro-refs. Ça te fait kiffer. Il y en a tellement en plus. Par contre, GOTY, on m'a dit, ouais, j'y crois pas, moi non plus. Si t'enlèves toutes les refs. D'ailleurs, c'est marrant parce que le jeu, finalement... Tu te rends compte que les refs, elles sont juste ajoutées dans le décor et qu'elles influencent pas trop le... Sauf 2-3 niveaux qui sont des niveaux PlayStation. Mais je vais pas en reparler, ce serait spoiler ça. En fait, le jeu, il est très propre. Et il y a des idées de gameplay vraiment bonnes. En termes de game design, on est à du niveau presque d'un Mario, il n'y a pas de souci. Mais en termes de DA, si ça ne marche pas, tu peux changer de scène. Oui, tu as raison. En termes de DA... Je vais vous laisser quand même sur la scène. En termes de DA, c'est assez générique, mais c'est un peu fait exprès. Ça fait penser un petit peu à du Little Big Planet quelque part, parce que c'est tellement générique que les personnages, tu peux les habiller n'importe comment. Tu peux avoir ton personnage habillé en Crash Bandicoot, ton personnage habillé en Ratchet & Clank, un petit peu comme Little Big Planet. Et c'est pour ça que la DA, elle est comme ça. C'est pour pouvoir justement jouer avec les différentes licences. Et du coup, quand tu enlèves toutes les refs, bah, le jeu, il a un look un peu bateau. Je trouve, il est mignon. Franchement, il est mignon. Ça marche bien. C'est propre. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de défaut. Mais je trouve qu'il lui manque, une identité ou une petite folie supplémentaire. Et pourtant, il tente des trucs. Hein. Il tente des trucs de ouf qui réussissent super bien. Des idées de gameplay, etc., de game design. Mais sur beaucoup d'aspects, il est juste hyper scolaire et hyper propre. Mais déjà, rien que ça, c'est génial. Hein. D'avoir un jeu hyper propre, hyper bien fait, c'est top. Et honnêtement, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Vous allez passer un bon moment. Il n'est pas hyper cher. Il est un peu moins cher que les gros jeux. Et en termes de gameplay, il est souvent meilleur que plein de jeux. Il n'est pas hyper long. C'est pas ce qu'on lui demande non plus à ce genre de jeu, mais il est top. Il y a un nouveau Mario & Luigi, ah bah ça ouais, ça c'est des genres de jeux, ça je kiffe ça. Ça je kiffe. Te lancer dans l'industrie, tu voudrais pas, Thompson qui me demande. J'ai failli trois fois j'ai failli. J'ai été j'avais fait un stage il y a longtemps quand j'étais en licence. Après ma première licence, j'ai fait une licence pro. Et j'ai fait un stage dans une boîte de jeux à Paris et ils m'avaient proposé de rester. Alors, c'était un stage de testeur, mais ça aurait pu être un pied dans le monde du jeu vidéo. Et à l'époque, je m'étais dit déjà, non, j'ai envie de continuer mes études. Tu vois, j'étais niveau licence, mais j'ai envie de continuer, donc j'ai lâché l'affaire. Après mon master, j'ai fait mon stage, je vous l'avais dit, au Japon. Et au Japon, on m'avait proposé de rester bosser. Dans une petite boîte qui fait des petits jeux vidéo. Et pas une grosse boîte de jeux vidéo, hein, mais une petite boîte. Et je me suis dit, ah, le Japon, j'ai adoré mon expérience au Japon, le stage que j'ai fait là-bas, j'ai adoré, mais je me suis dit, en fait, ça va m'écœurer, le Japon. J'avais peur d'être dégoûté du Japon. Je voulais partir en ayant kiffé et pas en restant trop longtemps au point que ça... Parce que vivre au Japon... Travailler au Japon, ça peut être très compliqué en réalité. Ça, c'est la deuxième fois. Et j'ai dit stop, je rentre en France. Et après, j'avais très envie de faire une thèse de doctorat et de continuer dans la recherche. Et donc, j'ai cherché du boulot. En fait, pendant que je cherchais une thèse, je cherchais aussi du boulot, des boulots qui pourraient me plaire. Et je suis allé faire un entretien chez Rockstar à l'époque, à Édimbourg. Rockstar, ceux qui font les GTA, ils sont à Édimbourg, en Écosse. Et j'ai été invité, en fait, j'avais postulé à une offre d'emploi, et j'ai été invité là-bas, ils m'ont fait venir. J'ai fait l'entretien, je vais vous avouer un truc, peut-être que je n'aurais pas eu le boulot, mais peu importe. Mais j'y suis allé aussi en mode plus rien à foutre, parce qu'en fait, 2 jours avant l'entretien, j'avais la confirmation que... j'allais faire une thèse de doctorat, que j'étais accepté pour faire une thèse à Paris. Et donc, je savais que je voulais plus ce boulot-là. Et donc, je suis quand même allé à l'entretien parce que je me suis dit, je peux pas ne pas aller à un entretien chez Rockstar. Ne serait-ce que pour l'expérience. Et en fait, à l'époque, Brian qui lit que j'étais à 6, à l'époque, ils m'ont pas laissé... D'habitude, les mecs m'ont dit, d'habitude, on fait faire le tour du studio aux gens qui viennent nous voir. Et ils m'ont dit, toi, on ne peut pas te faire faire le tour du studio parce qu'en ce moment, on bosse sur un jeu qui n'est pas encore annoncé. Et à l'époque, je crois que ça devait être Max Payne 3. Je crois que ça devait être Max Payne 3. Il me semble, hein, parce que Red Dead, il était sorti. GTA 5. Ou alors, c'était GTA 5. Hey, un follower. Salut, Emma. Bienvenue. Alors, attends. Par contre, si tu parles en anglais, c'est chelou. C'est peut-être un fake. Est-ce qu'il y a des fakes qui viennent me follow? C'est pas grave, ça fait grossir les chiffres. Oui, je pense que ça devait être ou GTA 5, mais ça me paraît un peu tôt. Ou alors c'était Max Payne 3. Max Payne 3 ou GTA 5. Et donc j'ai pas pu faire le tour des studios. Mais j'étais dans le studio, mais dans une pièce. D'accueil, quoi. J'ai pas pu aller voir les plateaux de développement. Ils m'ont pas laissé voir les ordis des gens, en gros. parce que le jeu n'était pas annoncé. Le jeu n'était pas encore annoncé. Mais c'était cool, hein. Et donc, j'ai fait l'entretien et je l'ai flingué. J'ai flingué l'entretien chez Rockstar, mais j'y suis allé vraiment en mode, de toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Ils ne m'ont pas pris pour le boulot. En même temps, si je l'avais fait sérieusement, je me demande, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le boulot non plus. J'ai l'impression qu'ils cherchaient quelqu'un avec plus d'expérience que moi à l'époque. Moi, j'en avais pas tant que ça à l'époque. Je présentais bien, j'étais pas mauvais, mais j'avais pas encore assez d'expérience, je pense, à montrer. Bref, tout ça pour dire que 3 fois, je me suis approché de l'industrie du jeu vidéo, et à chaque fois, j'ai choisi autre chose. J'ai voulu faire autre chose. Ouais, mon français est faible. Pas de souci alors, Emma. We can speak English very well here. Welcome. Donc, qu'est-ce que je vous disais de beau? Ouais, je m'en suis approché et à chaque fois, je suis allé faire autre chose. J'ai préféré faire autre chose. Ah, putain, Rosago, il tape là où ça fait mal. Le mini-jeu Unity que j'avais commencé l'an passé. Attends, il faut que je crois que quelqu'un m'appelle. Je crois qu'il y a... oui, attends, je crois que... On a besoin de moi dans l'autre pièce, je crois. Non, bah c'est vrai que je l'ai un peu mis en stand-by. Mais tu sais, Joker, ouais. Thompson qui dit Joker, ouais. Je sors mon Joker. J'ai mis beaucoup de choses en pause cette année. Beaucoup de choses en pause, notamment à cause de cet HDR. En fait, honnêtement, je pense que je pourrais un peu tout faire. Enfin, tout faire dans le sens... Je pourrais travailler un peu sur l'HDR, travailler un peu sur le jeu, travailler un peu sur mon stand-up, etc. Mais en vérité, j'y arrive pas. Mon cerveau, en ce moment, en tout cas, il n'y arrive pas. Et donc, j'ai mis beaucoup de choses en pause, notamment le stand-up aussi. Hein, j'en fais pas tant que ça du stand-up. Hein. Je vous en parle encore un peu parce que j'arrive à en faire encore et je vais continuer d'en faire après l'HDR. Je vais reprendre ça plus. Je vais en faire beaucoup plus. C'est juste que pendant cette période où je travaille sur l'HDR, j'ai dû diminuer beaucoup de choses. J'ai dû diminuer vraiment beaucoup de choses. Vous avez piscine. Attends, Brian, je t'appelle pour que tu puisses fuir. Axel, ça, c'est un gars sûr. Il me dépanne. Il me sort d'un mauvais traquenard. Donc voilà, le petit jeu, c'est pas complètement abandonné l'idée de sortir un jeu. Tu sais que des fois, je fais des petites game jams à l'arrache. Hein. Je fais des micro game jams un peu à l'arrache. Je lâche pas l'affaire. J'aime bien l'idée et j'aimerais bien sortir un jeu. C'est vrai que ce qui me manque, c'est au moins d'avoir même un mini-jeu, un tout petit jeu, dispo sur une plateforme. Un peu propre, un petit jeu propre. Même un mini-jeu. Hein. Mais voilà, je garde l'espoir de faire ça. Sur Steam, ouais, sur Steam, carrément. Il y a moyen. Il y a moyen de faire un petit jeu propre, pas trop compliqué, un petit mini-jeu, le release. Et rien que ça, rien que d'avoir ça que sur ma carte de visite, genre j'ai fait ce jeu-là. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de dessiner des choses dans le ciel, mais Steam est dans l'air. Mais oui. Toi, Rosago, ça release du game un peu? Tu releases un peu? Ou t'es toujours en bêta? Non, je sais pas, il y a des jeux qui sortent un peu de ton PC. Qui c'est qui fait des jeux un peu ici? Rosago surtout, ouais. Axel, t'as pas envie de nous faire des jeux aussi? Thompson, toi, c'est pas ton... T'as pas un truc un peu créatif aussi, Thompson, non? Qu'est-ce que tu fais de beau? Il y a des gens un peu qui créent. Là, je me suis mis un peu à la guitare. Pas du tout, Thompson. Je me suis mis aussi un peu à la guitare pour quand j'ai le blues. Le blues de mon HDR. Je puisse jouer un air de tristesse. Il y a tellement de projets avec l'école en ce moment que j'ai pas le temps de continuer mes projets. Ouais, voilà, tu vois. Tu fais des... Tu fais des commandes, des choix, quoi. Pour draguer madame, la guitare. Ah, si tu savais, elle en peut plus. Elle en peut plus de m'entendre jouer en boucle Sweet Home Alabama, mes versions fausses notes. Tu sais, j'ai appris 3 accords. Je joue les mêmes 3 accords en boucle. Ils sonnent faux parce que je suis nul. Et elle entend ça toute la journée. elle pète un plomb. Elle en peut plus. Ça a pas beaucoup d'effet, c'est plutôt l'inverse. Ouais. La seule chose que je peux release, c'est des robots MDR. Et pourquoi pas apprendre le jeu vidéo en autodidacte? Ah, bah c'est cool. Cool les robots. Et il y a moyen de faire des jeux aussi, tu sais, tangibles avec des robots, des trucs un peu concept. Mais bon, faut pas tout mélanger non plus. Des fois, c'est pas C'est pas évident. Je suis à l'ISART, en école de JV. Je sais plus si je l'avais dit ici. Ah, moi, je m'en souvenais, Rosago, ouais. Je me souvenais que tu étais à l'ISART. Bien wesh, d'ailleurs. C'est cool. Enfin, j'espère que ça se passe bien. Et mais du coup, même avec les projets que vous faites, enfin, j'imagine il y a les projets de l'école, vous les gardez juste en mode sur vos GitHub ou vous les réalisez pas sur, sur les plateformes? À part Itch.io, hein, peut-être, sur Itch.io. Ça se passe nickel pour l'instant. Trop cool. Non, je les ai mis sur Itch. Ouais, voilà. Ouais. Sur Itch.io, ouais, c'est ça. Oui, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà cool, ouais. Carrément. Bah, n'hésite pas à lâcher des liens. Ah ben, bah, tu peux pas lâcher un lien, je crois, dans le chat. Il faut qu'Axel, le grand modérateur, valide tout ça, quoi. Ok, bon, bah, c'était cool. En fait, finalement, bon, on n'a pas trop parlé d'Astrobot. Mais moi, j'adore un peu parler avec vous, quand même. C'est sympa, quoi. Pas parler de beaucoup de stand-up. On a parlé du boulot, pas mal du boulot. La semaine prochaine, la semaine prochaine, je suis à Angoulême pour le festival de stand-up. Donc, je vous parlerai sûrement de ça. Ça va être une grosse expérience. Ça va être une très, très grosse expérience puisque je joue une demi-heure avec des gens qui pèsent un peu dans le game. J'espère me faire repérer. C'est pas gagné. Hein. J'espère un peu me faire repérer. On verra. Alors, je vous parlerai de ça. Et puis, j'essaierai de vous réinstaller le Astrobot. Ça me dégoûte que je n'ai pas pu vous le montrer, quoi. C'est un peu dommage. Envoie MP. Quand j'aurai un bon jeu dont je suis fier, je vous l'enverrai. Ok, Rosago. Tu sais, il n'y a pas de jugement ici. C'est un safe space. On est vraiment... tu sais, on est entre nous. Tout le monde s'accepte avec ses défauts. Merci, c'était top. Merci à toi, Thompson, d'être aussi... au rendez-vous, c'est cool. Non, mais là, c'est vraiment des projets, ouais. des versions alpha de chez alpha. Ok, la team, je m'arrête là. Merci à tous d'avoir été ici. N'oubliez pas de liker, de partager, d'en parler autour de vous, de kiffer la vie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Salut.